écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osnet, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant de l'association Osez en parler. Il est expert sur le site cestmavie.tv et chroniqueur sur le site pigeonfuité.com. Il exerce un ministère itinérant particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osnet, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Alors, je ne sais pas, depuis notre dernière rencontre, vous en avez, évidemment, vous avez un ministère très, très varié.
J'étais en Martinique.
Oui.
Pendant 8 jours.
Avec un prêtre.
Il y a eu un rassemblement, donc nous étions 400 personnes à peu près. Et puis, j'ai eu la joie d'exercer le ministère aux côtés du père Roger Paulin, qui est un prêtre canadien, œuvrant en France maintenant depuis des années. Il est dans le diocèse d'Albi. Il est prêtre à la cathédrale d'Albi.
Ah oui.
Et c'est la troisième fois que j'exerce le ministère avec lui. On se retrouve pour des rassemblements où on est invité conjointement.
Voilà.
Et on est comme deux frères.
Deux frères, voilà. Mais c'est comme ça que l'Église se construit.
Oui.
Hein, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Et puis là, j'étais.
Le corps du Christ qui est. Afin qu'il soit un, afin que le monde croit que. Tu m'as envoyé, c'est Jean 17.
Hein. Oui, l'unité. Oui. C'est très important. Et puis ensuite, j'étais, il y a quelques jours, à l'École internationale d'évangélisation. Qu'a fondé le père Daniel Ange, c'est Jeunesse et Lumière.
Jeunesse Lumière, oui, c'est ça
et
l'école.
C'est près de Castres, en montagne, on capte rien au niveau téléphone, on est isolé du monde.
Oui, mais alors justement, Dieu parle, lui.
Dieu parle, oui, c'est un lieu vraiment de retraite, un lieu où on peut s'isoler pour prier. Donc il y a une petite chapelle à l'entrée qui reprend un petit peu les rites orthodoxes. Du moins, on retrouve beaucoup d'objets que Père Daniel Ange a ramenés d'Orient.
Mm-hmm.
Et c'est une petite chapelle, me disaient les jeunes. Il m'a dit, venez dire bonjour à Jésus.
Oui.
Et les orateurs de passage, ils les font venir dans cette chapelle d'abord pour prier avec eux.
D'accord.
Et puis pendant 2 jours, j'ai pu leur apporter des cours, des témoignages. Mmh. Et ils sont formidables, ces jeunes. C'est un lieu qu'on peut recommander, un lieu de ferveur. Et surtout un lieu où plein de jeunes sont appelés. Et ils retournent dans le monde entier après. Pour propager la bonne nouvelle, c'est très beau. Moi, j'en suis ressorti vivifié.
Voilà. C'est des jeunes de quel âge? Enfin, en gros.
Ils ont entre 20 et, voyons. Oui, il y en a un qui a 19 ans d'ailleurs. Ils ont entre 19 et, qu'est-ce que je dirais, peut-être une trentaine d'années.
D'accord.
C'est vraiment des jeunes. Et de tous les pays du monde. Qui vivent en communauté.
C'est beau. C'est l'avenir de l'Église et du monde, ça.
Mais bien sûr. Et ça m'a fait penser aussi à Thésée. Thésée et puis d'autres endroits en France où il y a un joyeux mélange dans le bon sens.
Ouais. Le royaume de Dieu arrive de façon... Il ne frappe pas le regard. Mais si on a des yeux pour voir...
On le voit. Ouais. On le voit. Et mon but, notamment, c'était de leur apporter un cours sur qui sont les protestants évangéliques.
Ah oui.
À la demande du père Daniel Ange, il m'a dit, il faut que tu leur expliques ce que tu vis et ce que vous vivez dans vos églises.
D'accord.
Alors donc, pendant 2 heures, j'ai expliqué un petit peu ce qu'on vit.
Voilà.
Et puis je leur ai témoigné aussi de l'importance de l'unité pour moi, personnellement. L'unité entre nous, qui ne signifie pas uniformité.
Non. Non, bien sûr.
Une unité spirituelle, parce que nous appartenons au même maître et nous avons le même esprit. Alors, c'est ça les bases de l'unité, on l'a souvent dit dans vos émissions, Chantal.
Mais oui.
Et là, j'ai vécu pleinement cette unité avec ces jeunes, avec le père Daniel Ange. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a profondément ému.
Chacun apporte ses richesses.
Oui.
Et il y a une l'esprit souffle et voilà. Hein, c'est
nul ne sait où il va, d'où vient le vent et où il va. Et ce qu'il faut, c'est suivre ce courant, ce souffle.
Et bien on peut rendre grâce au Seigneur pour tout ça.
Mais oui, mais oui.
Et on peut l'applaudir.
Ah oui, dans le studio.
S'applaudir au Seigneur.
Partout.
Alors écoutez, ça tombe bien parce que ce soir nous donnons vie à cette parole de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans tout ce chapitre 15, il est question de la résurrection et c'est tout un enseignement et une exhortation que Paul fait aux habitants de Corinthe à propos de la résurrection. Et dans cet avant-dernier verset du chapitre 15, c'est l'action de grâce qui éclate envers Dieu car il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et oui, et
la victoire.
Le Nouveau Testament est plein d'enseignements à ce sujet, au sujet de la victoire.
Hein. Oui.
Ce qui est important de bien savoir en tant que chrétien, c'est que Jésus a remporté la victoire à la croix. Quelle victoire ? La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur Satan lui-même et ses démons. La victoire sur la maladie, la victoire, etc., etc., etc. Il y a toute une liste.
Sur le mal, sur tout ce qui est la destruction.
D'ailleurs, il y a eu comme un tremblement de terre au moment où Jésus est mort. Il y a eu des morts qui sont ressuscités, qui sont sortis de leur tombeau. Ça a fait un barouf pas possible. Il y a eu des ténèbres qui ont couvert la terre. Enfin.
Chacun peut se dire, il se passe quelque chose quand même.
Oui, même les éléments naturels ont été touchés par cette victoire qui a été prise brutalement.
Tout est branlé.
Voilà. Et le message qui était donné à Jésus-Christ qui était sur la croix, le message donné par les sacrificateurs qui étaient au pied de la croix, qui observaient, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, etc. Ce message par leur bouche, c'était « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Alors ça, c'est le comble.
Oui,
si tu es le Fils de Dieu... Descends de la croix.
Et on retrouve un peu ce que Satan avait dit au désert. Hein.
C'est vraiment ça.
Si tu es le Fils de Dieu,
il est dit que Satan est le menteur et le père du mensonge.
Oui.
Alors, chacun sait que quand on est dans la souffrance, on a du mal à prier et on a comme un doute qui peut nous assaillir par rapport à notre mission.
Oui.
Parce qu'on souffre atrocement et la souffrance... provoque une douleur, un degré de douleur tel que ça ébranle même notre assurance.
Mmh.
Alors, Satan a redoublé de force contre Jésus pour essayer de le faire chuter. Il avait essayé 3 fois dans le désert, durant les 40 premiers jours de son ministère. Jésus a été baptisé et ensuite conduit par l'Esprit au désert. Premier acte de son ministère, moi je le dis souvent, vous vous préparez au ministère, vous rentrez dans le ministère, d'abord préparez-vous à souffrir parce que Dieu va vous tester.
Au désert, oui.
L'épreuve, le test. Alors 3 fois, donc Satan a essayé de faire basculer Jésus, et 3 fois, donc Jésus va lui répondre par des versets bibliques, d'où l'importance de la parole de Dieu.
Hein,
3 fois. Et donc, Satan voulait provoquer le suicide de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas.
Et les anges
te porteront. Oui. Et puis, il transforme ses pierres en pain. Donc, Satan voulait que Jésus rompe le jeûne d'obéissance qu'il avait fait.
Oui, le mot obéissance est important.
Au désert. Hein,
oui.
Et puis enfin, alors, Satan se dévoile. Il voit qu'il n'arrive pas. Alors, il se dévoile. Et il dit à Jésus... Eh bien, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre que tu vois autour de toi. Ce qui est le comble, puisque ces choses-là appartiennent à Dieu.
Mais oui.
Donc Satan ne pouvait pas donner à Jésus quelque chose qu'il avait déjà.
Il faut une certaine audace, un culot.
C'est du culot. C'est du culot. Si tu te prosternes et si tu m'adores. Donc on voit quel est le but de Satan. Il le dévoile là à la fin, parce qu'il voit qu'il est piégé. il voit que qu'il est fini, du moins que sa fin approche. Alors il va dévoiler vraiment ce qu'il voulait faire. C'était que Jésus se mette à son service. Mmh. N'oublions pas que Satan, donc Lucifer, c'était le premier ange de Dieu.
Oui,
c'était son premier ministre.
Ouais.
C'était son adjoint.
Ouais, c'est fou, hein.
Et cet adjoint a désobéi et a changé de camp. Dieu est amour, Satan est haine. Dieu est vérité, Satan est mensonge. Jésus dit « Je suis le chemin », Satan, c'est la confusion. Et une impasse, c'est pas un chemin, c'est une impasse, et qui mène à la perdition.
Et la séduction aussi.
La séduction, enfin la liste serait longue. Alors, là, à la croix, donc, et j'en termine avec cet épisode de la croix, Satan va redoubler d'efforts encore, et par la bouche, tenons-nous bien, des sacrificateurs, j'insiste, hein, des sacrificateurs, et des pharisiens, des docteurs de la loi. Mmh. C'est pas n'importe quoi.
Non, non.
C'était pas les ennemis de Dieu qui étaient présents au pied de la croix. Ils n'étaient pas là.
Non, non.
C'était normalement les amis de Dieu. Et ce sont les amis de Dieu qui ont eu la langue fourchue et qui, à la croix, ont été des instruments pour faire tomber Jésus avant sa mort. C'est très curieux. Satan, qui voulait tuer Jésus au début de son ministère, voudrait le ressusciter tandis qu'il est en train de mourir sur la croix. Si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix.
Oui, c'est paradoxal. Hein,
descends de ta croix. Hein, c'est-à-dire, oui. tu vas pas mourir.
Oui, tu vas pas mourir.
Mais ouais. Oui, Satan avait peur que Jésus meure.
D'ailleurs, il a su que à ce moment-là qu'il était fichu.
Il a eu très peur. Mais... Il a eu très peur parce qu'il se disait, ça y est, là oui. c'est la fin de tout. Donc, alors, il a battu ses dernières cartes. Hein. Si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix.
La tentation, la dernière tentation.
Voilà. Alors, c'est très curieux parce que c'est Satan qui a fait condamner Jésus. C'est Satan qui a fait du mal à Jésus, il a été couvert de crachats, on l'a fouetté, on lui a mis une robe écarlate, enfin, on l'a. Une
couronne d'épines.
Couronne d'épines. Enfin, il a été maltraité. Et il gardait le silence.
Oui.
Alors, c'est Satan derrière qui excitait donc, les ennemis de Dieu a provoqué cela. Et à la croix, tout à coup, Satan change de tactique. On dirait là qu'il a eu l'intuition qu'il s'était trompé. Il voit Jésus en train de mourir et en quelque sorte, il lui dit « Mais descends de ta croix hein ». Alors c'est marrant, Satan aurait... Enfin quand je dis marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est curieux.
C'est curieux, oui.
Que là, Satan, au contraire, aurait voulu sauver Jésus.
C'est là le mensonge, hein, il sait plus de la confusion.
Pour que Jésus ne devienne pas le sauveur du monde.
Ben oui.
Puisque Jésus, c'est le second Adam. C'est-à-dire, le premier Adam, il y a eu un échec avec lui. Donc Dieu a envoyé son fils comme deuxième Adam. Et pour que le deuxième Adam réussisse cette fois-ci. Autrement dit, Jésus a fait ce que Adam avait défait.
Oui.
Hein? Il l'a fait. Et donc, Jésus s'abandonne à la fin de son parcours terrestre. Il dit cette phrase merveilleuse, « Père, dans tes mains, je remets mon esprit. »
L'abandon total.
Jésus ne pouvait plus rien faire. Ni bouger, ni respirer, ni trop prier, ni réfléchir. Il a choisi l'abandon total. Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça m'inspire et ça peut nous inspirer. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, Chantal, nous ne pouvons rien faire.
Mais bloqué complètement.
Tout est bloqué, on a tout essayé. Et alors, il nous faut imiter Jésus qui dit, entre tes mains maintenant, je remets mon esprit. Et nous pouvons dire, Seigneur, entre tes mains, je remets cette situation, ou cette personne. Ou,
c'est ça.
Je te remets cela parce que je ne peux plus rien faire.
Oui.
Et c'est là que Dieu agit. Quand nous lâchons prise,
oui,
quand nous abandonnons le fardeau que nous avions, nous l'abandonnons dans le cœur de Dieu, c'est là que Dieu fait des miracles. Et 3 jours plus tard, Jésus ressuscite et il apparaît ensuite à ses disciples, les portes étant fermées.
Oui.
C'est quand même important aussi. Les portes étaient fermées. Il est rentré par les murs, par je sais pas où.
C'est une autre dimension.
Portes étaient fermées. Et il y a des portes qui sont fermées quelquefois dans nos vies.
Et verrouillées, dans nos vies.
Mais parce qu'on a pu dire entre tes mains, je remets ce dossier, je remets cette chose, cet événement, Eh bien, Jésus, lui, d'une manière miraculeuse, et seulement miraculeuse, va opérer des miracles. Et donc, nous le voyons être ressuscité par son Père, et puis rentrer, toute porte fermée, dans le lieu où les disciples étaient. Ils ont dû être très, très surpris.
Hein.
Et Thomas n'a pas cru, nous le savons.
Voilà, il n'était pas là, il n'a pas cru. On connaît la suite. Merci, pasteur Philippe Osney. Donc, voilà, ce soir, hein, nous méditons à partir de cette parole que nous rapporte Saint Paul. Hein. Grâce soit rendue à Dieu, l'action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire.
Donne, c'est lui qui nous la donne.
Oui, c'est lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on s'abandonne totalement, on remet tout. C'est pas toujours évident de tout remettre, c'est
non,
tout
non,
lâcher.
Non,
hein,
oui. je crois que c'est un cheminement.
C'est un cheminement, oui.
Qui
oui.
peut durer longtemps.
Oui, oui.
Parce
oui.
qu'on s'agrippe, on veut toujours nous
oui,
réussir.
Oui,
on veut y arriver par nous-mêmes.
Oui, oui,
bon,
oui.
D'un côté, c'est le signe d'une responsabilisation
oui,
de notre part.
Bien sûr.
Mais il y a des moments,
il faut
Dieu attend,
progressivement,
les
c'est
bras
ça.
Croisés, oui, et il oui. se dit, bon, quand est-ce qu'il va lâcher? Ou qu'elle va lâcher?
Voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là. Ouf.
C'est là que Dieu va faire le miracle après.
Merci, pasteur Philippe Osney. Donc, ce soir, eh bien, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Amen. On écoute tout de suite, c'est le chœur des moines de l'abbaye de Thamiers, Seigneur de ma vie.
Oui, c'est en Haute-Savoie, je crois.
Oui, tout à fait.
Radio Notre-Dame.
Seigneur de ma vie, tu m'as pris dans tes bras.
c'était donc le chœur des moines de l'abbaye de Tamiers, oui, en Haute-Savoie. Seigneur de ma vie, extrait de l'album Espérance de la gloire.
Et Tamiers, je crois que c'est du côté d'Annecy, il me semble. Hein,
oui.
Par là-bas.
Oui, par là.
Voilà. C'est une abbaye connue, je crois.
Oui, Tamiers, oui, bien sûr. C'est connu. Cistercien, oui. Donc, ce soir, eh bien, nous évoquons cette parole de Paul aux Corinthiens. C'est dans la première lettre, d'ailleurs, aux Corinthiens. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, le mot clé, victoire, hein, la victoire. Victoire, alors on peut victoire, la définir.
Oui, chacun sait ce que c'est, mais il est bon de mettre des mots sur une définition. Qu'est-ce qu'une victoire ? Eh bien, c'est un succès. C'est un triomphe même, hein, triomphe. Mmh. En tout cas, un avantage et une réussite. Hein, ça s'est bien passé, on va dire. Hein. C'est l'issue favorable, par exemple, d'une guerre, d'une bataille, d'une compétition. On a gagné. Hein.
Comment, ouais, il s'agit bien d'une guerre, quand même.
On a gagné, on a gagné. Oui, mais la vraie victoire, c'est pas la victoire d'un match.
Non.
Il faut qu'on le redise au monde. Ouais. C'est la victoire qu'a remportée Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il l'a remportée il y a 2000 ans. Autrement dit, la victoire que nous devons proclamer aujourd'hui, c'est une victoire déjà remportée.
Elle est déjà remportée.
Ce n'est pas nous te rendons grâce pour la victoire que tu vas nous donner, que toi, Dieu, tu vas prendre. Bon, je comprends dans la forme qu'on dise quelquefois ça.
Oui.
C'est une manière de parler. Mais on devrait dire finalement, nous te rendons grâce pour la victoire que déjà tu as remportée il y a 2000 ans et que nous avons donc remportée en toi il y a 2000 ans.
Ensuite, il faut l'approprier, on peut dire, l'accueillir.
Alors voilà, déjà, c'est important de croire, avant de se l'approprier, c'est important d'y croire.
Ah oui, c'est le premier
pas. Un soldat qui part au combat, si son chef lui dit « je sais que nous avons la victoire
hein, »,
je le sais, je vous dis pas comment je le sais, mais je vous dis que nous partons vainqueurs déjà. J'ai des renseignements qui me prouvent que nous avons déjà la victoire. Eh bien, ce chef des armées qui va exhorter ses soldats comme ça, il va décupler leur force.
Ben oui.
Les soldats vont avoir une bonne humeur et une énergie nouvelle dans le combat en se disant, ben, ça y est, on a remporté la victoire. Mmh. Notre chef le sait. Et donc, ben, on y va à fond. Hein.
Si on part perdant,
voilà, ben, c'est pas conseillé.
Non.
D'ailleurs, les entraîneurs au niveau du foot, voient leurs joueurs avant le match. Et là, hop, ce sont des slogans. Et d'ailleurs, on les voit quelquefois, ils se mettent à crier. Ils ont des cris de guerre. On les voit. Hein.
Pour stimuler.
Oui,
hein, pour,
ceux qui sont les plus impressionnants, c'est les All Blacks, voilà. En tout cas, ça se met à crier. On se dit, oh là là.
Bah, c'est bientôt d'ailleurs la coupe du monde. Hein.
Oui. Et alors, quand il y a des cris de guerre comme ça, l'équipe adverse se dit...
C'est du rugby, oui.
Oui, c'est rugby. Alors donc, quand il y a des cris comme ça, l'équipe adverse a peur en se disant, oh là, ils ont l'air d'être forts, ceux-là. Hein. Mais ça me fait penser aussi au récit de l'Ancien Testament, de Goliath qui s'avançait contre les Israélites. Et à l'époque, quand on combattait une armée ennemie, soit les armées elles-mêmes s'affrontaient, hein, frontalement, soit on choisissait un guerrier.
De chaque
camp. Général, oui, et en général, c'était le plus fort. Le guerrier le plus fort, le plus aguerri, comme on dit, avec le plus d'expérience.
On comprend qu'on ne choisisse pas le plus.
Bah oui. Et Goliath avait été choisi. Il mesurait, je ne sais plus, 3 ou 5 mètres. Je sais
géant,
faut qu'on regarde les textes, mais c'était incroyable. Quand il marchait, ça faisait boum, boum, sur le sol, les rochers tremblaient. C'était vraiment un géant.
Puis il était armé. Hein.
Et il était armé. Et il était impressionnant. Et le petit David n'avait que 5 pierres polies dans sa poche. 5, hein. Pas beaucoup. Hein. Mm. Il avait une fronde et 5 pierres, 5 cailloux. Il a refusé l'armure du roi Saül, qui lui avait mise. Ouais. Et le petit David, qui était un gamin, il croulait sous l'armure, il ne pouvait même pas avancer. Alors, David a dit, non, ton armure, roi, j'en veux pas. Et il s'est mis à courir en direction de Goliath. Mais il a couru, hein. Il a pris un caillou, un seul.
La fronde.
Il a pris sa fronde, où il y avait un élastique, je sais pas que, en quoi c'était à l'époque, mais en tout cas, il a mis le caillou, il a visé, en courant, hein, il a visé le front de Goliath. Et Goliath s'est écroulé à terre. Et David lui a dit, avant qu'il meure, tu as insulté le Dieu vivant. Hein, aujourd'hui, je te couperai la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, mort, est tombé par terre. David lui a coupé la tête. Et
avec sa propre épée de Goliath.
Oui. Oui. Et donc, ensuite, il l'a tenu comme un trophée. Alors, ça, c'est l'illustration de la victoire que Jésus a remportée à la croix. On peut dire que Goliath, c'est Satan. C'est l'image de Satan. C'est l'image de la méchanceté, du péché, de la mort.
De l'orgueil aussi.
De l'orgueil. Et Jésus, à la croix,
lui, hein,
a pris sur lui la punition qu'on devait avoir, nous, les êtres humains. On devait être puni à cause de nos péchés. On méritait la mort à cause de nos péchés. Jésus a pris cette mort sur lui pour que nous ne l'ayons pas, justement. Si du moins nous nous identifions à lui,
bien sûr,
et que nous croyons qu'il est le sauveur,
unir, oui,
et le Seigneur, c'est-à-dire que nous devenions chrétiens, eh bien lorsque nous devenons chrétiens, nous nous identifions à Jésus-Christ et nous constatons qu'il a pris sur lui nos transgressions, le châtiment qu'on devait avoir, il l'a pris sur lui. Et c'est ce qui a fait que Satan également a pu être vaincu. Parce que c'était, j'allais dire que c'était dans le lot, c'était dans le pack, comme on dit maintenant. Hein. Dans ce pack, dans ce lot, il y avait la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, etc., etc. Hein. Et donc là, à la croix, par le fait que Jésus a été l'agneau expiatoire, a accepté d'être cet agneau sacrifié, comme dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux, et puis on confessait ses péchés en mettant la main sur l'animal, hein, et ensuite le sacrificateur.
Le bouc émissaire. Hein,
oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors bon, donc là, à la croix, il y a 2000 ans, cette victoire a été remportée. Voilà le fait que nous devons croire, et c'est ce que je disais à l'instant, le plus important c'est d'y croire. Parce que si j'y crois pas, si je me dis, bah oui, mais enfin apparemment, cette victoire n'a pas été prise pour toute chose. Parce que quand je regarde autour de moi, je m'aperçois qu'il y a encore des divisions, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des gens qui meurent injustement, etc. Donc si nous réfléchissons en nous disant, ben non, cette victoire, elle n'est pas là vraiment.
Parce qu'on regarde Satan, ce moment-là, son œuvre.
C'est ça, oui. On regarde à son œuvre. On dit que Satan, quand il a été vaincu, parce qu'il a été vaincu, on dit que c'est comme un serpent dont on a coupé la tête. Le corps bouge encore pendant tout un temps. Le lierre, c'est pareil. Tu coupes du lierre, tu coupes le lierre à son pied,
oui,
hein, où tu arraches les racines,
oui,
et ben le lierre va vivre encore quelque temps. Et il reste accroché à la façade ou à l'arbre.
Oui, ça
longtemps
croche,
après.
Oui.
Longtemps après. Alors le diable, longtemps après, bouge encore. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle.
Mm-hmm.
Mais
il
la tête a été coupée.
Mm-hmm.
Il veut impressionner. C'est un faux semblant. La tête a été coupée. Alors ça, il faut le croire.
Mm-hmm.
Et malheureusement, il y a peu de chrétiens qui ont reçu cet enseignement.
Mm-hmm.
Parce que c'est un enseignement qu'il faut donner aux chrétiens. En leur disant, vous n'avez plus à vous laisser faire. La victoire a déjà été remportée par Jésus. C'est à vous maintenant d'y croire et puis de l'apprendre avec Jésus.
Eh oui, parce qu'autrement, on reste comme si la victoire n'était pas remportée.
Eh ben oui, puis on va traîner les pieds pendant toute une vie et on va souffrir toute une vie peut-être à cause de ça. Hein, avoir la tristesse de celui qui attend que la victoire arrive. Ben oui, mais Jésus voudrait te dire ce soir, mais mon frère, ma sœur, ta victoire, je l'ai remportée à la croix. Alors là, je m'adresse à ceux et celles qui nous écoutent. D'ailleurs, je pense qu'on va prier dans quelques instants, on va devancer l'appel. On va prier pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont un effort à faire pour croire cet enseignement de la victoire. Cet enseignement de l'apôtre Paul, je le rappelle. Et c'est donc l'enseignement de l'Église tout entière.
Bien sûr.
La victoire a déjà été remportée. Et Alors, pendant ce petit moment de prière, dans quelques instants, là, eh bien, nous allons prier pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ont du mal à faire cela, qui ont du mal à prendre cette victoire, où ils n'ont peut-être pas été enseignés comme il faut, et à cause de ça, eh bien, ils vivent dans le défaitisme.
Oui, c'est ça.
Et c'est pas volontaire de leur part. Défaitisme, la tristesse, la nonchalance, et puis ils attendent quelque chose qui a déjà été donné finalement.
Oui. Hein. Donc c'est... on passe à côté à ce moment-là. Hein, de...
Oui.
Alors on va prier peut-être tout de
on
suite.
On va prier hein, à oui. l'instant, j'aurais voulu qu'on fasse cette prière en fin d'émission, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me pousse à la faire maintenant, donc je vous invite, chers amis, pendant que vous entendez... C'est le son magnifique de cette harpe du ciel.
Oui. Hein,
les prophètes, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, avaient des harpistes.
Oui, oui.
Et se faisaient jouer de la harpe pour prophétiser.
Oui.
Parce que ça les aidait à
Et David
dans l'onction. Oui. David également. Alors, eh bien, nous mettons donc à l'école de David ce soir et nous prions quelques instants. Nous recueillons. Et bien sûr... J'invite tous les auditeurs et auditrices qui le veulent à se joindre à nous maintenant, à pourquoi pas se mettre à genoux. Mettez-vous, comme vous le souhaitez, assis, debout, à genoux, mais vous vous recueillez quelques instants et voici, Seigneur, que nous tous, autour de cette émission, nous sommes en train de nous tourner vers toi à l'instant même, nous tournons nos esprits vers le tien, Jésus. Toi qui, à la croix du calvaire, est devenu l'agneau immolé pour nous, et toi qui as remporté déjà cette victoire. Alors, je vous invite maintenant, vous qui vous recueillez, je vous invite à croire que la victoire a déjà été remportée sur vos péchés, sur vos épreuves, sur l'injustice, l'incompréhension, la maladie, la mort. La mort qui n'est qu'un passage. Ce n'est pas une fin. C'est un passage, la mort. Et par contre, après, il y a la deuxième mort. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous lirez le livre de l'Apocalypse qui en parle. Seigneur, donc nous voici en train de t'adorer et de te dire que nous croyons en effet que tu as remporté la victoire à la croix de Golgotha. C'est fait. Ce n'est pas à faire. Et je vous invite, chers amis, à vous mettre maintenant au bénéfice de cette victoire. Voulez-vous le faire? Et dire chacun, chacune, Seigneur, je me mets au bénéfice de la victoire que tu as remportée sur la croix il y a 2000 ans. Mes péchés ont été pardonnés. Ma mort a été vaincue. Les attaques de Satan ont été brisées contre ma vie. La malédiction qui était sur moi a été ôtée. Et j'ai la vie éternelle. Vous pouvez chacun et chacune le dire à voix haute pour ceux qui le peuvent. Et vous pouvez dire ceci maintenant, Seigneur, je prends la victoire et je l'ai. Et vous pouvez faire le geste, pour ceux qui le veulent, de prendre cette victoire devant vous, hein, vous attrapez cette victoire et vous la mettez contre votre cœur maintenant. J'ai cette victoire, je viens de la prendre. Je l'ai, ce n'est plus à faire. Et je vous invite maintenant à proclamer la victoire sur toutes vos épreuves, sur vos péchés, sur tout ce qui vous fait mal, sur les événements, quelquefois, qui se sont tournés contre vous. Je vous invite vraiment à faire comme à Jéricho quand on relit les textes. Ils ont tous crié « Victoire ! Alléluia !» Et les murailles de Jéricho, qui étaient très épaisses, sont tombées. Alors, je vous invite à faire cela maintenant et pourquoi pas à crier « Victoire !» Tant pis pour votre voisin s'il se réveille. Eh bien, au moins, il saura que la victoire
est remportée
en Jésus-Christ. Non, mais vous pouvez le crier dans votre appartement, votre villa, là où vous êtes. Moi, je m'adresse aussi aux personnes détenues dans une cellule. Vous pouvez vous aussi le dire, victoire, le crier. Je m'adresse aux personnes âgées, dans des hôpitaux, les cliniques, partout où l'on souffre. Je m'adresse aux personnes seules, qui dont les enfants ne viennent même pas faire une visite. Et vous vous sentez seul. Il y en a beaucoup des personnes âgées qui souffrent. Que Dieu les bénisse. Et maintenant, je prie pour vous, chers amis, vous qui avez eu ce courage de prendre la victoire, et je demande à la bénédiction de Dieu d'être sur vous. Seigneur, je dis cela vraiment au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit dans vos vies, que Dieu vous visite, vous, vos enfants, vos ancêtres qui sont vivants, et là où vous travaillez, là, dans votre cadre habituel, que la bénédiction soit avec vous. Merci Seigneur, parce que tu as béni tous mes frères et sœurs et tu les as mis en position de vainqueurs ce soir. Amen.
Amen. Merci pasteur Philippe Osné, la victoire dans Jésus-Christ, elle est acquise. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter tout de suite, bien sûr nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Nous écoutons, mais c'est le chœur mixte de la primatiale de Lyon. Et c'est de Jacques Berthier, « Je te rends grâce, ô mon Dieu ».
Radio Notre-Dame.
Soir. Eh bien voilà, ça c'était le chœur mixte de la primatiale de Lyon, de Jacques Berthier, « Je te rends grâce, mon Dieu ». Et on rend grâce avec tout le peuple de Dieu pour la victoire qui est remportée à la croix.
Oui, c'est déjà
par
fait.
Jésus, c'est fait.
C'est fait.
Et Paul nous dit,
c'est une bonne nouvelle.
Grâce soit rendue à Dieu,
ben oui, c'est ça.
Notre Père, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, par notre Seigneur Jésus-Christ, et cette victoire s'est produite au moment de la croix. Oui. Les textes sont formels. Ils se sont produits au moment où Jésus a expiré et où sa résurrection était en préparation.
La mort n'a pas pu avoir de prise sur lui.
Non,
parce
non.
qu'il était totalement abandonné au Père, donc cet abandon total dont on parlait tout à l'heure, et complètement obéissant, hein. On dit obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix,
oui,
mais
oui.
Obéissant, donc cette obéissance, donc cette confiance absolue dans le Père, hein, cet abandon total, qui fait que la victoire de la résurrection, la victoire de la vie,
voilà, c'est ça.
Être,
alors là, c'est plus une question de nos propres forces.
Non.
On l'a dit tout à l'heure, Jésus n'avait plus de force.
Ah oui, impuissant totalement.
Et la victoire, Dieu lui a donné, c'est le Père qui a pu lui donner depuis là-haut,
oui.
depuis son trône de gloire. Il lui a donné parce qu'il a obéi. Il est allé jusqu'au bout. Il a accepté cette mission d'agneau immolé. D'ailleurs, cette mission a été prophétisée longtemps à l'avance. Mmh. Hein, dans le livre d'Ésaïe, on en trouve des fondements.
Hein,
qu'il serait comme un agneau livré à la boucherie. Les textes, longtemps avant, prédisaient cette chose. Hein. Et les textes disaient, ce sont nos péchés qu'il a portés, nos maladies. Enfin, c'est très précis quand on fait une compilation de tous ces textes bibliques. Il y a un enseignement fondamental. Et alors, beaucoup de chrétiens, je le disais, ne savent pas cela et font donc comme si ils devaient souffrir toute leur vie. Hein, ça s'appelle le dolorisme. Voilà, tout est difficile, il faut souffrir, il faut porter sa croix. Oui, 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 mais pas plus qu'il ne faut.
Oui, et traverser avec Jésus le tombeau, il ne faut pas rester dans le tombeau.
C'est ça. Alors, je le dis souvent dans des enseignements que je donne, Dieu ne nous demande pas de nous tuer, il nous demande de renoncer à notre volonté et à nous-mêmes. Mais il ne nous demande pas de nous tuer.
Ben oui.
Et il y a des chrétiens qui sont comme morts intérieurement. Parce qu'ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus de joie, et ils ne croient plus dans la victoire. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ou que ils l'ont été, mais ils souffrent tellement qu'ils n'y croient plus. Alors, on parlait des séminaires, des grands séminaires tout à l'heure. Ça serait bien si les prêtres étaient formés à cette prise de victoire, cette victoire du peuple de Dieu. Il y a quantité d'enseignements supplémentaires qui pourraient donner.
Mais c'est là où cette complémentarité entre nos églises, hein, chacun apportant ce qu'il a le point fort, hein, que Dieu met en avant pour voilà.
Oui, alors c'est là que cette complémentarité peut jouer, puisque nous, c'est vrai, les protestants évangéliques avons été formés dans cette victoire, dans cet esprit de victoire.
Mm-hmm.
C'est une formation, c'est un enseignement. On a été baigné dedans, hein, depuis notre conversion.
Mmh.
Et donc, parfois, quand on prie, on est comme des guerriers. Des guerriers qui savent qu'ils ont la victoire. Hein, et qui donc la prennent, s'en revêtent, et vont renverser des forteresses. Hein. Et c'est vrai qu'on a là... des compléments entre catholiques et protestants évangéliques, des compléments assez forts qu'on peut s'apporter les uns aux autres.
Il y a quelque chose dans cette grâce des évangéliques de cette première Pentecôte, quand on voit les apôtres, ils étaient ivres comme s'ils étaient ivres de vin.
Ah, mais
doux,
oui,
hein,
mais oui, alors on critique quelquefois des gens qui tremblent ou qui tombent par terre ou qui sont sous l'onction du Saint-Esprit et où il y a des phénomènes qui sont un petit peu bizarre. Mais moi, j'ai envie de dire à tous ces critiqueurs, ces rationalistes de tout poil, qui sont pour le fait de rester figés, hein, on ne s'exprime pas par les émotions et par le corps. Moi, j'ai envie de leur dire, mais essayez de vous projeter le jour de la Pentecôte.
Eh oui. C'est l'Écriture, ça.
Mais oui, ils étaient tous ensemble autour de Marie, Mère de Jésus.
C'était fermé, ils avaient peur.
Oui,
hein.
Oui, et le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu,
oui.
Des langues de feu.
Oui.
Et si les textes bibliques nous disent des langues de feu, c'était des langues de feu.
Ça les a brûlés. Ouais.
Hein. On va dire, c'est une image. C'est... Oui, puis la Bible est une image, puis Dieu est une image. Et puis finalement, tout le monde sera sauvé, hein, on ira tous au paradis. Voilà, ça c'est le langage de Satan en personne. Hein. Donc des langues de feu. Des langues de feu. Et quand d'ailleurs le Saint-Esprit descend sur une assemblée en prière, il y a comme une chaleur qu'on peut ressentir physiquement. C'est tout à fait vrai. Alors, il y a eu ces langues de feu, et puis ils se sont mis à parler en d'autres langues, et surtout, quand ils ont voulu se lever, ils se sont aperçus qu'ils étaient ivres. Mais vraiment ivres. Et j'ai déjà vu des gens ivres du Saint-Esprit. J'en ai vu. Ils titubent, ils tombent par terre et tout. Alors...
Mais on appelait, chez les orthodoxes, alors en Russie, les folles en Christ. Il y avait une sorte de folie, la folie de Dieu, hein. C'est...
Oui, mais c'est ça. Et ouais. L'apôtre Paul en parle, hein, de cette folie, hein, ouais. que.
Bah oui.
Voilà, il en parle d'une manière très claire. Mm. Alors, les chrétiens qui veulent pas être fous, qui veulent être collés, montés, là, voilà, toujours tout est rationnel, tout se passe bien, tout, voilà, ça fait pas de bruit, on ronronne avec un bon christianisme de seconde zone. Et puis c'est bien, il n'y a pas de bruit, on entend juste le bruit d'une pièce d'un euro qui tombe dans l'église. Oh, ça a fait du bruit. Et puis on veut pas de bruit, puis on veut surtout pas d'enthousiasme. Et puis, alors, il y a la liturgie, ok, à la liturgie, mais le feu qui est derrière, il est où ?
Ah oui, il faut qu'elle soit enflammée, la liturgie.
Voilà.
Oui.
Et moi j'aime bien ces rassemblements comme les JMJ, etc., où là, il y a de l'enthousiasme. Et où il se passe quelque chose, et physiquement, on peut s'exprimer.
Thésée aussi,
oui,
les jeunes.
Oui, Thésée. Alors, faisons un tour en Afrique.
Ah oui.
Et nous verrons comment nos amis africains prient.
Hein. Et vous qui revenez de la Réunion, non, c'est de...
J'étais en Martinique.
En Martinique, oui.
Alors, c'est pareil, en Martinique, les gens prient aussi avec leur corps, ils sont plus dynamiques dans leur culture que nous.
Oui, c'est partie de la culture.
Ça fait partie de la culture, et en Afrique, c'est encore plus. Les cantiques africains, quand une église entière chante un cantique, mais ça bouge partout. Mm. Ça bouge, on simule qu'on est dans une pirogue, on pagaille.
Avec... Ah oui.
Oui, c'est comme ça. Et donc, nous, tout bons Européens qu'on est, on est devenus rationalistes, et puis finalement, à force de dormir, à force que ça dorme dans les églises, et je ne dis pas que c'est partout pareil, mais ça s'est transformé en dortoir. Non, mais je suis désolé, il y a eu les cités dortoirs autrefois, hein, c'était ces bars de HLM, etc., et on peut parler maintenant d'églises dortoirs, dans certains cas de groupes de prière dortoirs, mais même certains groupes de prière charismatiques sont devenus des groupes tout à fait traditionnels, où l'on dort, où quelqu'un dit « Seigneur, tu es bon », et tout le monde dit « Seigneur, tu es bon, alléluia ». Il y a des moments où je me dis « Mais il récite ou quoi ?» Où est le feu? Où est l'enthousiasme? Où est le dynamisme? La victoire du renouveau, par exemple, le renouveau charismatique en 72, 73, ces années-là. Où le feu est descendu sur des pentecôtistes, sur des catholiques. Et puis là, ça bougeait. Et dans les réunions de prière, c'était dynamique. Il y a certains groupes de prière endormis.
C'est cette nouvelle Pentecôte que le pape Saint Jean 23 maintenant,
oui.
A appelé, hein, sur...
Ah, mais c'est lui qui a c'est lui qui a prié pour qu'il
y ait une nouvelle
Pentecôte descende.
Oui.
Et la Pentecôte est arrivée à la suite de sa prière. C'était un homme humble, un petit, qui a toujours prié pour que le Saint-Esprit descende sur les gens et transforme le monde. Et Dieu l'a exaucé.
Oui. On évoquait juste avant, parce que David Duplessis, le pasteur qui avait été invité au concile, hein,
comme c'est
observateur au concile, hein, il avait ouvert les fenêtres, hein, justement.
Il ne faut pas qu'on ait peur au niveau de l'œcuménisme, là, de tout ce qui est interconfessionnel. Mmh. Il ne faut pas qu'on ait peur. Moi, j'entends beaucoup de chrétiens dire « Oh, attention, danger !» Bon, c'est bien qu'il y ait juste une semaine pour l'unité des chrétiens, une semaine par an. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. je suis désolé.
C'est pas ce que le Christ a dit avant la.
Mais voilà.
Sa passion.
Alors, l'homme n'est pas comme la femme. La femme n'est pas comme l'homme. Alors, à cause de ça, les hommes vont rester avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et on va supprimer le mariage peut-être ? Non, mais je veux dire... Non,
à l'heure où on en parle autrement...
Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cafouillis ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là où on veut que chaque église, oh là là, reste dans la droite ligne ? Voilà, la vérité, elle est chez nous, hein. Elle est chez nous et elle est que chez nous, hein. Elle est pas chez les autres, hein. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces bergers, pasteurs ou prêtres, hein ? Je vise aussi bien les protestants et les évangéliques que les catholiques, qu'est-ce que c'est que ces bergers qui ont peur et qui interdisent à leurs brebis d'aller voir dans le pré d'à côté ? Ah ben, tu as peut-être peur de perdre ta brebis ?
C'est le même Christ, hein ?
C'est le même Christ. Alors,
c'est le même esprit.
Voilà, rassemblons-nous, vivons cette victoire du ressuscité ensemble sans avoir peur. Alors bien sûr, il faut de l'honnêteté. Quand on va chez les autres, c'est pour être honnête. C'est pas pour dire voilà, deviens comme moi, les catholiques vont aller dans des temples réformés ou chez les évangéliques et dire voilà, vous devez devenir catholique, hein. Et puis alors les évangéliques, on va essayer de piquer des âmes, piquer des brebis. C'est pas ça l'unité, hein. C'est laisser le Saint-Esprit éclairer chacun.
Voilà. Et conduire les uns et les autres comme il l'entend, hein.
Comme il l'entend, on libère le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que c'est que ces mots d'ordre où faut pas se mélanger ou faut
ça, voilà, c'est la peur, n'ayez pas peur.
Mais oui, l'autre jour je l'ai dit déjà à l'antenne, j'ai entendu quelque chose de la part de quelqu'un qui est en vue et je lui avais dit en tant qu'homme d'église, je pense ceci ou je pense cela. Il me dit non, tu n'es pas un homme d'église parce qu'un jour tu as déserté le catholicisme. Tu as quitté notre église. Ah, je me suis dit, ah bon, je suis pas un homme d'église. Et depuis, justement, un prêtre en pleine réunion, il a appris ça. Il a dit à toute une assemblée, alors, est-ce que le pasteur Philippe Auzet est un homme d'église ou pas? Et tout le monde a applaudi, tout le monde a dit oui. Et moi, je m'y attendais pas. J'ai pas demandé qu'on me fasse ça. Mais ça a été rectifié depuis. Mais
oui.
Ce sont des paroles de mort,
mais
ça.
Mais bien sûr.
Hein,
mais ça, c'est la
de dire à quelqu'un, tu n'as pas les sacrements, donc tu es mort,
oui.
Ou tu penses pas comme nous, ou tu crois pas dans la présence réelle, donc il te manque 90% de la vie chrétienne. Attention. Les choses se font lentement, progressivement, mais on a d'abord la vie par le Saint-Esprit.
Mm.
Il faut que tu naisses de nouveau,
oui,
a dit
oui.
Jésus.
Hein,
à Samaritain. Il faut que tu naisses à Nicodème.
Oui.
Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ça le plus important. Et après, l'esprit va guider chacun.
Mais oui.
Et bien sûr, faut pas de cafouillis. Bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut de la prudence.
Mais il faut une ouverture et une confiance aussi. Hein. Mais
rien sans risque.
Bah oui.
L'amour prend des risques. Bah d'ailleurs, relisons premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13.
Bah oui.
L'amour croit tout, espère tout, hein, l'amour fait confiance. Alors, il faut qu'on ait confiance. Et moi, je souhaite de plus en plus qu'entre catholiques et protestants, on puisse vraiment se réunir, prier ensemble. N'attendons pas d'être d'accord sur tout.
Mais non.
C'est faux, ce principe. Ah ben, j'attends que l'homme... Je retranspose ça dans le cadre du couple. L'homme qui dit, je changerai quand ma femme changera. Puis la femme qui fait pareil.
Hein? Et rien ne change,
quand, si il change, mon mari, moi, je changerai. Eh ben oui, ben on attend... Voilà, des dizaines d'années. Mais non, on va aller au-devant de ça, puis on va se couvrir de bisous, et on va se dire, je t'aime tel que tu es.
Voilà.
Alors, aimons-nous les uns les autres. Hein. Et il y a une chance inouïe pour l'Église à l'heure actuelle, c'est que le pape actuel, le pape François...
Sortez de vos sacristies d'ailleurs.
Langage très évangélique, très clair, très précis. Mm. Il a un langage incisif, il est rempli d'amour, mais il est ferme. Et cette chance qu'il y a également, c'est que en Amérique du Sud, d'où il est issu, il a beaucoup côtoyé les évangéliques. Il les connaît bien.
Oui, il y en a beaucoup là.
Il les connaît très bien.
Oui.
Et il en reçoit. Il connaît des pasteurs.
Mm-hmm.
Ah, c'est une chance pour les échanges entre nous. Et il va falloir la saisir, cette chance.
Je crois que l'Esprit Saint, il conduit là. On voit comment il conduit l'Église. Un grand, grand merci, pasteur Philippe Auzet. Donc, je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Le thème ce soir, autour de cette parole de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, la première lettre aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu notre Père qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Voilà, nous attendons vos appels et vos questions, mais aussi vos témoignages. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre, on se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Les nouvelles applications iPhone et Android de Radio Notre-Dame sont arrivées. En un clic, vous pouvez désormais écouter l'antenne en direct sur votre mobile ou votre tablette, réécouter vos émissions préférées à tout moment de la journée, vibrer au son de notre web radio Musique Sacrée, prier avec notre web radio Foi et Raison, ou encore suivre nos actualités sur le pape François, la vie de l'Église et les questions de société. Pour télécharger les nouvelles applications de Radio Notre-Dame, rendez-vous sur le magasin Android Google Play ou sur le magasin Apple Store. Si vous avez déjà l'appli iPhone ou iPad, une simple mise à jour suffit.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
En compagnie ce soir du pasteur Philippe Osnay, qui exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Et ce soir, eh bien, en ce temps pascal, hein, la victoire est acquise justement dans ce temps pascal, qui rayonne du ressuscité tout le temps d'ailleurs, mais c'est un temps de grâce particulier. Nous donnons vie ce soir à cette parole de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 57. « Grâce soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors nous, on invite bien sûr nos auditeurs à nous rejoindre à partir de cette parole, comment elle vous travaille, comment elle vous parle.
Qui est une exclamation, c'est une parole qui est une exclamation et une parole de louange pour des choses acquises. On l'a dit tout au long de l'émission.
Alors on disait donc pour que à la croix du calvaire, Jésus a remporté la victoire hein, sur le diable et ses démons. Et, bien sûr, Paul en parle particulièrement aussi dans chez les Colossiens.
L'épître aux Colossiens, aux habitants de la ville de Colosse. Donc, hein. Et on trouve au chapitre 2 et au verset 15, le verset suivant, « Il a dépouillé », et d'ailleurs nous le chantons, les protestants évangéliques.
Bah, vous le chantez, non ?
Nous le chantons, oui. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix ». Voilà, publiquement, en spectacle. Mmh. Donc c'était public.
C'est Paul qui le dit. Hein,
et c'est Paul qui le dit. Il a dépouillé. Il dit pas, il y aura un dépouillement.
Non.
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Il n'est pas parlé de victoire, mais de triomphe, c'est encore plus fort.
Oui, oui.
Triomphant d'elles, comment ? Par la croix.
Oui.
C'est-à-dire, c'est à la croix que ça s'est passé.
Voilà, c'est à la croix que la victoire est acquise.
Elle est acquise, c'est comme un contrat qui a été signé.
Oui.
Il y a désormais la paix. Mais bien sûr, il y a des ennemis encore qui essaient.
Bien sûr, donc hein, là, il faut être très très vigilant et au contraire, avec la force du Christ.
Il y a un combat spirituel à mener pour garder cette victoire, c'est ça. Le combat spirituel, ce n'est pas pour prendre la victoire, c'est pour garder la victoire et l'appliquer un peu comme un cataplasme. On l'applique à chaque domaine de notre vie.
Voilà, oui.
On l'applique aux événements, on l'applique au monde. On va l'appliquer au monde politique qui, en ce moment, on a bien besoin.
Oui.
Je parle au niveau planétaire.
Ah, planétaire.
Quand on entend
oui.
ce qui se passe là.
Mais oui.
C'est alarmant.
Ah oui, oui, c'est ça. Mais c'est oui, où c'est ce nouveau gouvernement mondial hein, qui est unique, Satan. Enfin, où c'est la victoire de l'Esprit Saint qui est qui est un esprit d'unité, mais pas d'uniformité. C'est pas je ne veux voir qu'une seule tête.
Exactement, exactement. Ça, c'est important. Et donc, au niveau de la planète, il y a un combat spirituel géant, hein, donc planétaire, entre l'Esprit de Dieu qui a déjà remporté la victoire, hein, Dieu lui-même,
oui.
Père, Fils et Saint-Esprit. La victoire a été remportée, mais il y a un combat de Satan, qui est, donc, on l'a dit, le menteur et le père du mensonge, qui veut faire croire hein, que...
Et impressionner. Hein,
voilà, il veut faire croire que lui va dominer et vaincre. Et tout ce déferlement qu'on voit à l'heure actuelle de ce n'importe quoi. Moi, j'appelle ça, c'est du n'importe quoi.
Ah ben,
il y a même plus de foi en la vie.
Ah oui,
il n'y a pas de foi dans l'être humain. Il n'y a plus de respect, plus de dignité. C'est fini. Et ce sont les gouvernements maintenant qui nous injectent ça dans les veines. Oui. Ce poison du gender et du n'importe quoi
ben oui.
qu'il y a à côté.
Alors,
c'est
justement,
horrible.
Le Christ a vaincu tout cela et cette victoire de Jésus nous rend à notre tour victorieux dans notre vie spirituelle. Et un peu plus loin, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, hein, Paul va insister sur cette victoire.
Alors voilà, et on retrouve un verset qui ressemble au premier,
oui.
hein, d'ailleurs, qu'on a lu tout à l'heure. Tout le long de l'émission, hein, ce
oui.
verset de la première épître aux Corinthiens. Là, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait, alors là, attention, là, ça va plus haut, hein, l'enseignement, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Oh là 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 là, quel verset!
Qui nous fait toujours,
triompher en Christ. Toujours.
Oui, toujours.
Là, il y a une question de foi. Hein, soit on se dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Toujours, dira l'apôtre Paul. Et lui, en prison, vivait la victoire. Il a été longtemps prisonnier, enchaîné.
Et là, il y a encore, tout à l'heure, c'était donc la victoire, le triomphe là, hein, triompher
le
encore.
Le triomphe, toujours, il nous fait toujours triompher en Christ.
Hein.
On rappelle encore que c'est par ce que Jésus-Christ a fait.
Tous les mots sont pesés. Hein,
Dieu rend grâce à son Christ, j'allais dire, au travers de l'apôtre Paul.
Oui.
Hein, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. J'aime bien ça.
Oui.
La connaissance de Dieu a une odeur.
Oui, oui.
Hein, une odeur. C'est beau. C'est
l'odeur de la vérité. Hein.
L'odeur de la vérité,
oui.
l'odeur
qui
de la grâce de Dieu, de la miséricorde, de l'amour, de la bonté.
Oui.
Et ce sont ces valeurs-là qui transformeront le monde.
Bien sûr, hein. bien sûr.
Il ne faut pas croire au déluge de mensonges actuellement qui déferle sur le monde.
Alors, Paul développe toute une pédagogie, il nous appartient de le croire, comme vous le rappeliez, pasteur Pipiosné, et de combattre spirituellement en partant vainqueur dès le début par la foi. Et Jean, dans la première lettre de Jean, cette fois-ci, il est question encore de cela.
Oui, et Jean, c'est le disciple de l'amour. C'est important de le dire. Il dit donc dans sa première lettre, hein, au chapitre 5 et au verset 4, il dit ceci, il étaye davantage les choses. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je répète, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, né de Dieu. Donc, c'est tous ceux qui ont une nouvelle vie, qui sont nés de nouveau.
Oui.
Donc, les chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom, parce qu'on peut être chrétien de nom.
Mais ceux qui sont nés de nouveau.
Chrétiens vraiment qui
nés dans l'esprit.
Ont une vraie vie spirituelle et qui se baignent dedans, en quelque sorte. Hein. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors là, Jean, qui est le disciple de l'amour, va parler de la foi. C'est quand même surprenant. Oui. Et il dit que c'est notre foi qui va permettre cette victoire qui triomphe du monde. Hein? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autrement dit, soit j'y crois, soit j'y crois pas.
Il faut pas attendre de le ressentir.
Bah non, bah d'ailleurs c'est pas un ressenti d'ailleurs.
Non, justement la foi c'est pas un ressenti.
C'est pas un ressenti.
Mais oui.
C'est d'abord un fait auquel je vais adhérer, auquel je vais croire. Et bien sûr que des émotions peuvent venir du ressenti. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a créé les émotions.
Ben oui, bien sûr.
Donc, il en faut. Mais il ne faut pas que la foi soit d'abord basée dessus, mais sur des faits. Le guide de la foi, la base, c'est vraiment la parole de Dieu, dont il nous est dit qu'elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voilà. Alors, comme la Bible dit que, les écrits bibliques disent que la victoire a été prise, eh bien, le chrétien qui triomphe du monde parce qu'il est né de Dieu, va s'attribuer cette victoire, va vraiment s'en recouvrir comme d'un manteau, par la foi. Par la foi.
Revêtir de la victoire du Christ.
Se revêtir de la victoire du Christ. C'est ça.
Oui.
Et c'est une proclamation. Je suis vainqueur. C'est pas de l'orgueil.
Bien sûr.
Je dirais que l'orgueil, c'est de dire, oh bah oui, peut-être que, oh bah Seigneur, est-ce que tu pourrais? Non. Seigneur, je suis sûr de toi. Je suis sûr. Parce que tu nous l'as dit. Alors je suis sûr. Ça, c'est de l'humilité. C'est de l'obéissance.
Ben oui, parce que c'est l'obéissance véritable. Oui,
elle est là. Elle est là. C'est pas le reste. C'est pas de tout remettre en question constamment. Hein? Il y a des écoles de théologie, paraît-il, où on croit plus en Dieu.
Hein? Ah ouais?
C'est terrible. Où on remet tout en question. Dieu existe-t-il? Oh ben voilà, grosse question en théologie, hein. Dieu existe-t-il? Ah ben dis donc, mes petits lapins, vous commencez vraiment par, vous êtes forts là, hein. Non mais sans blague, mais c'est vrai, c'est vrai.
Là on est loin de la victoire du Christ.
Oh mais on est très très loin. Oui. Jésus a pris des petits enfants, les a mis au milieu, des apôtres, il a dit voilà, si vous ne leur ressemblez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai bien aimé, lorsque le pape faisait, il était assis, je crois que c'était dans la basilique Saint-Pierre ou je sais plus où, et un petit enfant, je crois un petit Africain ou...
Oui, c'est...
Un petit enfant de couleur, me semble-t-il, tout à coup est venu et a joué avec lui.
Oui.
S'est mis devant lui et puis, a voulu s'asseoir sur lui. Mais c'était une parabole. D'ailleurs, on a vu le François qui riait. Les cardinaux qui étaient à côté regardaient et n'ont pas osé interrompre cet événement. Les services d'ordre étaient pétrifiés.
Ben oui, c'était
logiquement, le service d'ordre aurait dû prendre cet enfant et l'enlever. Mais non.
Mais le pape l'a dit de laisser. Oui, c'est ça. Oui,
voilà. Et il y avait une parabole. Alors, la victoire, on l'a eue à la croix. Eh ben, en ayant une foi d'un petit enfant, eh ben, on va la proclamer tout va.
Eh oui, bien sûr.
Et la proclamation de cette victoire donne la joie après de celui qui a vaincu.
Alors. On voit qu'il y a une cohérence dans les Écritures, parce que déjà dans l'Ancien Testament, cette victoire était déjà annoncée, et particulièrement par exemple dans le Deutéronome.
Ben oui, Deutéronome, donc c'est le début de la Bible. Hein? Deutéronome, chapitre 28, verset 7. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. » Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Pour ceux qui ne connaissent pas ce chapitre 28, c'est toute la liste des bénédictions qui sont accordées à celui qui obéit à Dieu. Voilà. Et il y a les malédictions. Le chapitre suivant, ce sont les malédictions. Hein, du moins un autre chapitre. Je ne sais plus si c'est celui d'avant ou celui d'après. Bon, enfin, peu importe.
En tout cas, le 28, c'est les bénédictions.
28, c'est les bénédictions. Et il y a les malédictions aussi qui sont répertoriés, et on voit bien que déjà à l'époque, ces enseignements étaient prophétiques, puisque quand on relit la liste des malédictions, ça a été écrit il y a très longtemps, ben on peut voir dans notre monde contemporain que ces malédictions se produisent encore.
Rien de nouveau sous le soleil.
De nouveau sous le soleil. Alors, voilà, déjà, dans la liste des bénédictions, il y avait cette victoire, elle était prophétisée très très longtemps à l'avance, avant que Jésus ne soit mort sur la croix.
Ben on voit avec Moïse, par exemple, la mer rouge.
C'est la victoire. Ils n'ont pas eu à combattre. Ils sont sortis de la mer rouge, et quand le dernier Israélite est sorti de la mer rouge, les deux pans d'eau qui s'étaient élevés comme des murs autour du peuple pour qu'ils puissent passer à sec, ces deux pans d'eau se sont refermés sur les chars des Égyptiens. Ils n'ont pas eu à combattre, ils n'ont pas eu à verser du sang. Ce sont les éléments naturels qui ont fait le travail. C'est-à-dire, ça a été l'œuvre de Dieu. Où malheureusement, ces personnes-là ont dû périr.
Parce que Pharaon, on dit bien, avait le cœur endurci.
Voit qu'il y avait un problème de foi.
Mais oui.
Pharaon, c'est vraiment l'antichrist. C'est vraiment celui qui va contre le peuple de Dieu.
Et qu'il est né en esclavage, c'était bien pratique.
Et à l'heure actuelle, méfions-nous des gouvernements. Faisons attention, en Orient comme en Occident, de tous ces gouvernements qui sont ceux qui vont crucifier la foi des chrétiens. Et en France, heureusement qu'il y a eu ces manifs-là, et heureusement qu'un certain Payon, qui était ministre de l'Éducation, a pu entendre la voix du peuple de Dieu, l'entendre, puisqu'il voulait créer une nouvelle religion et anéantir le christianisme. Ça aurait été la religion républicaine. Vive la République ! Alors, voilà la nouvelle idole. Vive la République. Comme si... c'est quoi la République ? La République, c'est un système. C'est une structure fondée par les êtres humains. On ne peut pas adorer une structure.
Ben non, bien sûr.
C'est complètement stupide. Et je suis bien content que ces projets... Enfin, c'est lui qui a été écarté, mais les projets, j'espère qu'on va les mettre un peu à la poubelle. Parce que...
En tout cas, proclamons la victoire du Christ.
On la proclame. Et on l'a, c'est pas qu'on l'aura, c'est qu'on l'a.
On a la victoire. Alors, donc, on voit déjà que dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, cette victoire est annoncée, Deutéronome, vous en parliez. À quoi donc l'apôtre Paul relie-t-il encore la notion de victoire, si on revient à Paul?
Alors lui, il continue à développer son enseignement.
Oui, c'est dans les Romains.
Et on en trouve d'ailleurs partout des versets qui enseignent au sujet de cela. Il dit ceci aux Romains, aux habitants de Rome, à l'Église de Rome, chapitre 5, verset 3. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alors, il va même plus loin, et il a l'air de nous dire que l'épreuve, loin de nous éloigner du Christ et de Dieu, va au contraire nous fortifier dans la foi, et va permettre en nous, à cause de notre persévérance, la victoire, qui elle-même va produire l'espérance. Donc, le fruit de la victoire, c'est l'espérance. Et c'est normal. Je proclame la victoire sur un événement ou une personne. En proclamant cette victoire, je m'aperçois qu'en effet, Dieu produit la victoire, parce que la proclamation est importante. Et permet à Dieu de manifester la victoire. La foi, c'est comme un canal qui va amener la victoire.
Je proclame la victoire,
la proclame, aussitôt, l'onction de Dieu descend. Sur la
comme
situation.
Un canal.
Rapidement, mais
elle arrive.
En tout cas, il y a des événements où c'est aussitôt, et quelquefois c'est différé, mais la victoire sera là. Et cette victoire va produire un nouveau fruit, c'est l'espérance. Et c'est pas étonnant. J'ai vaincu une première fois, après, j'ai de l'espoir. Je me dis, oh là, mais sur cette situation, Dieu m'a donné la victoire, ou du moins je l'ai prise, parce qu'il l'avait prise, lui, il y a 2000 ans. Je vais faire ça pour tous mes autres combats. Je vais faire cela. Alors, ben, cette espérance, ensuite, nous permet de témoigner aux autres, de dire, oui, d'accord, je comprends, tu vas pas très bien, mais je prierai pour toi. Parce qu'il faut pas être agressif, hein. Je prierai pour toi. Et tu verras, la victoire de Dieu va se manifester. Et tu seras plein d'espoir, ensuite. Voilà, faut le dire, dans la douceur.
Mais oui.
Ne soyons pas trop durs quand on veut parler de la victoire aux gens. Il faut pas les agresser.
Mais non, bien sûr.
Il faut pas les abuser, hein, les secouer comme des pruniers. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui font ça. Allez, t'inquiète pas, oh, c'est pas grave, il y a eu un décès dans ta famille, allez, t'en fais pas, ça ira mieux. Ah ouais, mais non, ça colle
non,
pas.
Non, Dieu est plein d'amour, de miséricorde. Il a pleuré sur Lazare.
Il a pleuré sur Lazare et il avait des émotions de l'être humain. Hein.
Mais évidemment.
Il était pleinement homme et pleinement Dieu.
Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs le téléphone pour nous rejoindre 01 56 56 44 00, donc autour de cette parole de Paul aux Corinthiens dans la première lettre. Grâce soit rendue à Dieu notre Père qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le téléphone, je le rappelle, 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. On se retrouve dans quelques instants.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions, sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité? Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30, sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc ce soir, en compagnie du pasteur Philippe Osney.
Et de Chantal Ballier.
Oui, aussi.
Ah ben, qui ne dit pas qu'elle est présente. Non, mais on connaît sa voix, hein. On la reconnaît. Voilà. Les auditeurs aiment bien aussi votre voix, Chantal.
Voilà,
je l'ai déjà dit.
Voilà, ensemble,
j'ai
eh bien,
beaucoup
on,
de témoignages.
On travaille à l'œuvre.
Qui disaient cette Chantal. Qu'est-ce qu'elle est douce, elle va pas aimer, elle est dans le studio, elle me regarde, elle va pas aimer, parce que elle veut pas qu'on parle d'elle.
Voilà, on est ensemble dans son.
On est ensemble.
Dans sa victoire.
Dans sa victoire et au milieu du peuple de Dieu.
Tous ensemble.
Et avec joie, tous ensemble. Tous
quand
ensemble.
Deux ou trois sont réunis en mon nom, hein, je suis au milieu d'eux, donc la victoire est acquise.
Mais bien sûr.
Encore plus, enfin, hein, quand on est tous ensemble, les murailles tombent. Alors, donc, 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Bien sûr, je redonne la parole à laquelle nous donnons une vie particulière ce soir. Grâce soit rendue à Dieu notre Père qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Et on écoute tout de suite Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse.
Bonsoir à tous deux.
Bonsoir Marie-Thérèse.
Je voudrais vous poser une petite question, je suis peut-être un peu hors sujet. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la seconde mort.
Oui.
Hein, que je n'ai jamais compris exactement de quoi il s'agissait.
Oui.
Mais surtout, pouvez-vous me définir ce qu'elle est?
Voilà. Alors, l'Apocalypse en parle. Donc, il y a une première mort qui, je le rappelle, et je l'ai dit tout à l'heure, est une porte où nous rencontrerons le Seigneur. Tous.
Oui.
Croyants ou incroyants, nous verrons ce qu'il y a derrière. Hein? Et il y a une vie après cette mort terrestre. Ça, c'est la première mort. Et puis la Bible parle, donc l'Apocalypse nous parle de la seconde mort, réservée à ceux qui n'auront jamais voulu accepter l'évangile de paix, qui l'auront critiqué, qui auront toute leur vie commis vraiment du mal, volontairement, vraiment du mal, et puis qui n'auront pas voulu croire en Jésus-Christ et en son sacrifice. Alors, cette mort est réservée à ceux qui, bien sûr, par leurs œuvres, ont démontré qu'ils ne voulaient pas vivre. Parce que c'est ça, on dit souvent, oui mais Dieu est injuste, il va punir des gens en disant, toi tu vas par là, et toi tu vas par là, toi tu vas mourir une deuxième fois. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que cette seconde mort. C'est en fait la condamnation éternelle réservée à ceux qui auront été jugés selon leurs œuvres et dont on aura trouvé que leurs œuvres étaient toutes mauvaises, y compris au niveau de la foi. Ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas voulu se prosterner devant Dieu. Et malheureusement, ils ont signé au bas du contrat de Satan. Parce que faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas trois forces en jeu. Il y a la force de Dieu et il y a la force de Satan. Hein, le Saint-Esprit et l'esprit du mal. Alors, soit on signe au bas du contrat de Dieu, hein, c'est par Jésus-Christ qu'on le fait, et la conversion personnelle, soit on signe au bas du contrat du mal, et j'ai rencontré dans ma vie des gens qui ne font que du mal, et qui aiment faire du mal. Il y a des lucifériens, il y a des satanistes qui tuent des enfants, des gens qui font le mal exprès, des gens qui sont tombés dans la sorcellerie, et en Afrique il y a beaucoup de sorcellerie. Alors la deuxième mort, vous me demandiez, et je vais répondre, donc c'est celle-là. La Bible nous parle d'un grand étang de feu.
Oui.
Où Satan y sera jeté ainsi que les démons, et malheureusement, les personnes qui n'auront pas voulu suivre Dieu, et non seulement ça, mais qui auront prouvé par leurs actes qu'ils ne voulaient absolument pas des choses de Dieu. Quoi, hein. Donc Dieu ne va pas les forcer. Moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. Dieu ne va pas les forcer. Alors ils vont mourir une deuxième fois, et cette fois-ci c'est la mort éternelle. Tandis que les autres vont continuer leur vie éternelle, recevoir la vie éternelle, continuer leur vie éternelle, et il n'y aura pas de seconde mort, mais une vie qui se prolongera à jamais. Et l'Apocalypse nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre.
Et dans la vision de Dieu.
Oui, c'est ça. Là, vraiment, ça sera tout sera parfait.
C'est plus dans la foi, c'est dans la vision.
Oui, tout à fait. Là, ça sera vraiment, j'allais dire, du réel. On le vivra réellement. Donc, il n'y a qu'une seule chose à craindre, finalement, c'est la seconde mort. Mais elle est réservée vraiment à des gens, comme je le disais, qui sont allés très très loin dans la hiérarchie du mal. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un Dieu qui va dire, voyons, toi Georgette, ben, je vois que t'as mangé 3 carrés de chocolat un soir, tu vas être puni. Je veux dire, Dieu n'est pas un Dieu qui punit à la légère, hein. Il faut vraiment l'avoir provoqué, je pense.
Et puis c'est la liberté de l'homme, c'est l'homme qui dit non. Hein.
Mais c'est ça, moi je pense que Dieu finalement va mettre de côté ceux qui auront prouvé qu'ils ne voulaient pas de lui.
Ben oui, il ne peut pas forcer. Hein.
Ben, il ne va pas les forcer, ça serait un abus et un viol.
Hein, oui, voilà. Mais dans ces conditions, la seconde mort, c'est une séparation de Dieu, avec tout ce que cela peut comporter, mais ce n'est pas un retour au néant.
Ben écoutez, on n'en sait pas plus, mais moi, les temps de feu, j'aimerais pas y être. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de vie là-dedans. Hein, un étang de feu.
Étang de feu, c'est des écrits comme ça.
Oui. Des flammes. Hein, et je crois que même...
ça évoque la souffrance,
La souffrance, oui, une souffrance éternelle. Alors moi je préfère pas y penser, je veux dire, ça me fait trop mal.
Hein. Parce qu'en fait, on pourrait quand même penser que finalement la résurrection n'est pas pour tout le monde. Qu'à un certain moment, ceux qui ne sont pas destinés, disons, à la résurrection, retourneront au néant, cesseront d'exister définitivement, non ?
En tout cas, ce n'est pas ce que dit la Bible. Il n'y aura pas une suppression de vie comme ça. Pouf, tout à coup, on tombe dans le néant, il n'y a plus rien. Non ? Non, il y aura vraiment...
La vie est éternelle, mais pour oui. la souffrance ou pour la béatitude.
Voilà, et dans l'autre côté, bon, c'est l'enfer. En fait, on est en train de décrire l'enfer. Hein, la seconde mort conduit en enfer. Et l'enfer, c'est un lieu de souffrance abominable. Voilà, moi, je ne peux pas décrire ce qu'il y a et je frémis en pensant à ça. J'ose pas y penser, mais je sais que Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Et je ne vois pas Dieu commettre des actes d'injustice envers les êtres humains. Il voit dans le cœur de l'être humain, et nous n'avons pas à avoir peur, nous chrétiens, qui confessons le nom du Seigneur, qui confessons nos péchés aussi à Dieu, nous n'avons pas à avoir peur de cet enfer. Hein. Moi, je connais des chrétiens qui manquent d'assurance, et ils ne savent même pas qu'ils sont sauvés, en quelque sorte.
Qui ont la victoire.
Qu'ils ont la victoire. Oui, oui. Hein. Ils disent peut-être que Dieu me recueillera auprès de lui. Peut-être. C'est une drôle de manière de croire dans son Père.
Ben oui. D'avoir la confiance.
D'avoir la confiance en son Père. On peut dire sans orgueil, je suis sûr, je sais où je vais. D'ailleurs, tous les martyrs sont morts bien souvent dans la joie, en chantant, ils savaient où ils allaient.
On voit Étienne les cieux ouverts.
Hein. Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, Marie-Thérèse, oui.
Puis-je poser une petite question encore ?
Allez-y. Eh bien, écoutez, si je sais répondre oui ou Chantal, oui, nous répondrons.
Bon, je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas qu'on s'appesantit peut-être un peu trop sur nos péchés, alors qu'on est finalement, continuellement, définitivement couvert et à chaque instant par la victoire du Christ.
Oui, alors ça dépend des gens. Il y en a qui vivent sous une culpabilité trop importante. Une auto-accusation qui demeure constamment dans leur vie. Et là, il y a un manque de... là encore, il y a un manque de foi dans l'enseignement des Écritures. Et donc de l'Église. Il y a un manque de foi. Ils ne se sont pas emparés de la victoire. Et ils restent, oui, dans un petit peu l'esprit de défaitisme. Oh là là, j'ai commis beaucoup de péchés. Mais moi, je pense cela pour répondre clairement à votre question. Je pense qu'on ferait bien mieux par moment... Une fois que nos péchés sont confessés, et qu'on a pu réparer aussi, parce qu'il faut réparer quelquefois. Moi, je pense que, bien sûr, qu'on devrait passer notre temps plutôt à regarder à la victoire dans tous les domaines. Hein, vous avez raison, là, Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse, oui.
C'est rassurant.
Bon. Voilà, merci en tout cas de vos questions.
Merci de vos réponses. C'est très clair. Je vous remercie beaucoup.
C'est nous qui vous remercions. Bonne soirée, Marie-Thérèse.
Bonne soirée. Au revoir. Donc vous pouvez, comme Marie-Thérèse, nous rejoindre toujours au 01 56 56 44 00. Et donc on peut poursuivre un peu, pasteur Philippe Osney, dans ce que nous évoquions toujours à propos de la victoire qui est acquise.
Oui.
À la croix, définitivement, à condition de s'en emparer, d'y croire.
Oui,
parce que si on refuse la victoire, si on doute...
Celui qui doute, d'ailleurs il n'y a pas que dans le domaine de la foi chrétienne. Hein. Si je doute de moi, je doute de mon métier, que j'ai choisi le bon métier, je doute que ce logement, finalement, j'aurais peut-être pas dû habiter là. Non, mais il y en a qui vivent un doute éternel.
Perpétuel, oui.
Ah, mais oui, ils doutent de tout. C'est tout simple, c'est que dans leur éducation, on leur a pas appris ce que c'est que l'assurance. Et si les parents inculquent un doute permanent, peut-être que, etc., l'enfant... Il se construit dans le doute et ça donne des adultes qui ensuite doutent quand ils viennent de se marier, doutent d'avoir épousé la bonne personne, doutent, comme je disais, de leur logement, de tout. Finalement, on part en vacances en Italie, mais je me demande quand même si on n'aurait pas dû choisir l'Espagne. Et ça, 24 heures avant. Ça va pas, ça. sauf si on s'était trompé. Et ça arrive. Mais non, il y en a qui sont perpétuellement dans un état
d'esprit
de
doute permanent.
Et il n'arrive pas à bâtir quelque chose. Et une personne d'ailleurs qui doute sans arrêt, on la fuit un peu, on se dit, mais elle a 20 ans, mais elle est rasoir. On peut se fonder sur rien avec elle.
Oui, c'est pas rassurant du tout.
C'est pas rassurant.
Non. Alors justement, cette victoire, on parlait d'état d'esprit, c'est un état d'esprit ?
C'est un état d'esprit, oui. Chez le chrétien, c'est quelque chose qui doit rester en permanence. Moi, j'appelle ça avoir l'esprit de victoire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le matin, je me lève, et puis je proclame tout de suite, d'abord la présence de Dieu, que Dieu est avec moi, il est mon Père. Je lui dis combien je crois en lui. Et puis je vais lui dire merci Seigneur, parce que tu as déjà remporté la victoire sur cette journée que je vais vivre. Et peut-être sur les drames que je vais voir ou vivre. Tu as déjà pris la victoire. Alors, on s'empare de cette victoire dès le matin, victoire qui a été acquise déjà, mais on la prend sur nous comme un manteau, et pendant la journée, on ne va pas retirer ce manteau. On va l'avoir en permanence. Donc c'est un état d'esprit. Alors un état d'esprit qui peut changer les choses, parce que celui qui a un état d'esprit de victoire, il est optimiste, il est joyeux, il va réussir davantage son travail, il parle mieux, il est plus agréable au niveau relationnel, etc., etc. Il aura une meilleure santé, puisque savoir qu'on est victorieux, ça a une influence sur la santé.
Et surtout.
Surtout. Et ça, c'est donc un état d'esprit, et non pas... Moi, je vois certains chrétiens qui luttent toute la journée. Ils sont en combat toute la journée. Alors, au nom de Jésus, je prends la victoire. Voilà, arrière Satan. Oh, et ils disent, voilà, c'est encore un coup de Satan, ça. Puis ils insistent sur Satan. Mais non, il a été vaincu. Alors, c'est vrai que je peux voir dans la journée que Satan a attaqué, par exemple, mais il ne faut pas que je me cristallise sur ces choses-là.
C'est proclamer les vecteurs du Christ à ce moment-là.
Mais bien sûr. Alors, ces gens-là s'épuisent, parce qu'ils sont en combat toute la journée. Un combat qu'a opéré le Christ à la croix.
C'est lui qui l'a,
il y a 2000 ans.
Opéré.
Alors, je sais, quelquefois, il y a des périodes de vie où on combat plus que d'autres.
Oui.
Parce qu'on vit un drame, parce que, je ne sais pas, une personne, par exemple, qui apprend qu'elle a le cancer... c'est un sacré combat, etc. Il n'y a pas que la maladie, il peut y avoir autre chose, il y a un décès, un deuil. Par exemple, on perd sa voiture brutalement dans un accident, où on n'était pas en tort. Une voiture folle nous est rentrée dedans, on a eu la vie sauve, mais on n'a plus de bagnole. Et on y perd énormément parce que l'assurance ne remboursera qu'une partie. C'est un drame et il y a un combat là. Mais il m'appartient de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as protégé déjà dans cet accident, et aussi parce que tu vas permettre un miracle au sujet de ma voiture, la nouvelle que je dois acheter. Alors là, il faut combattre et proclamer vraiment que Dieu a en réserve donc cette nouvelle voiture. Il faut même aller jusque-là. Ce n'est pas une honte, parce que Dieu se soucie de tous nos problèmes. Et une voiture, c'est important. On va au boulot... en voiture, souvent. Et on a besoin... C'est un instrument, la voiture, de nos jours. Oui. Avant, ils avaient les chevaux, les calèches, fouette, cocher. Maintenant, donc, c'est...
Un instrument pour se déplacer,
faire les courses, etc. Alors, on en a besoin de la voiture. Et il est bon de se confier à Dieu. Et déjà, de demander aussi la protection de Dieu sur notre voiture. On est à l'abri de rien, c'est l'état d'esprit de victoire qui va faire qu'on va rejoindre la cordée, en quelque sorte. On avait un peu décroché, on rejoint la cordée, on se réaccroche. C'est comme un attelage. Les gitans le savent, donc les tziganes qui sont en France, les manouches, les sinti, les gitans espagnols, qui sont des gens souvent sympathiques et qu'on rejette à cause peut-être de quelques-uns qui sont pas toujours qui donnent pas toujours un bon témoignage, mais c'est des gens super. Eux, ils savent ce que c'est, ils vont accrocher, ils vont atteler tout à coup tel jour, telle heure, hop, ils attellent la voiture et la caravane. Alors la victoire, c'est ça. c'est tout à coup raccroché à justement cette certitude que Dieu a vaincu, même si j'ai perdu ma voiture, même si j'ai une perte financière ou on m'a volé. Hein, ça existe, les vols. On m'a volé, les vols par carte bancaire. C'est impressionnant, j'ai vu les chiffres nationaux qui viennent de sortir là. Les fraudes par carte bancaire, c'est impressionnant. Il y a vraiment des spécialistes qui s'introduisent dans... qui sont capables de vous voler de l'argent sur votre compte, à votre insu. Bah c'est pas facile. Donc, on, comme on dit, les bras m'en tombent. Hein, j'ai trop perdu dans cette affaire. Mais oui, mais tu as ton Dieu. Et tu peux proclamer qu'il pourvoit à tes besoins. Et cette proclamation va engendrer un miracle. Les gens n'y pensent pas. Et disent, vous savez, nous on a beaucoup perdu. Bon, je vais rester tout petit en disant ça. Hein, parce que moi, combien de fois aussi j'ai baissé les bras.
Hein, oui, bien sûr.
Tous. Mais oui. Par moment, on baisse les bras. Donc je ne suis pas mieux qu'un autre.
Mais il faut...
Voilà, moi j'ai été enseigné comme ça. Et c'est acquis. Et le plus tôt possible... Je raccroche le wagon. Hein,
voilà. Et on repart dans la victoire du Christ.
On repart dans cette victoire et c'est infectieux dans le bon sens.
Donc c'est un état d'esprit, hein, on disait.
C'est un état d'esprit qui va infecter les autres.
Oui,
en bien.
Oui, bien sûr, ben oui.
Il va les influencer.
Oui, c'est ça, c'est une bonne influence. Et donc cet état d'esprit du combattant, hein, on disait qu'un combattant qui part à la guerre en sachant qu'il a déjà vaincu, décuple ses forces.
Ah ben bien sûr, si je sais que c'est déjà fait.
D'ailleurs, Paul en parle aussi, hein, je crois que c'est à Timothée, me semble-t-il.
Ah oui, parce que Timothée, c'était son enfant spirituel, c'était vraiment son enfant. Oui. Et il lui a beaucoup écrit à Timothée.
Oui.
Il le bichonnait. Hein, et il lui dit ceci, ça c'est dans la première lettre à Timothée. Hein, là c'est une lettre à une personne.
Hein, oui.
Avant c'était une lettre à une église d'une ville. Là c'est une lettre à une personne. Enfin il y a deux lettres d'ailleurs. C'est la première lettre, chapitre 6, verset 12. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le bon combat de la foi. Pourquoi le bon combat de la foi? Parce qu'il y a le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est quand justement on combat en gaspillant ses forces et d'une manière tout à fait inutile, parce qu'on n'a pas appris à combattre.
Oui, c'est ça. On est dans un conflit plutôt avec soi-même.
Oui, il y a tout un mélange.
Il y a tout un mélange
et c'est comme si on battait l'air avec une épée comme ça, là, toute la journée, et on s'épuise complètement. Donc,
c'est le combat de Don Quichotte.
Oui, c'est vraiment ça. Donc, combat, le bon combat de la foi. Parce qu'il avait dû voir que Timothée peut-être s'épuisait dans des combats qui n'étaient pas toujours les bons. Par exemple, quand on a un ennemi, par exemple, le mauvais combat, c'est de chercher à lui rendre les coups qu'il nous envoie. Le bon combat, c'est quelquefois de dire, Seigneur, c'est toi qui vas t'en occuper. Mm. Et puis il s'en occupe.
Merci pour tous ces conseils, pasteur Philippe Osney. On écoute, c'est une pièce de Monteverdi, Christe adoramus te.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc c'était donc cette pièce de Monte Verdi, Christe Adoramus Te. Alors, voilà, les appels arrivent vers la fin. Les auditeurs se disent l'émission va se terminer.
Ce sont les ouvriers de la dernière heure.
Bon, on va voir comment on peut faire.
Hein, parce maintenant.
Que c'est bien d'appeler un peu plus tôt pour qu'on puisse. Parce que là, il faudrait qu'on puisse voir, puisque l'apôtre Paul parle à Timothée du bon et du mauvais combat. Et il énumère, par ailleurs, les armes du combat, du
oui,
bon combat.
Quand il écrit aux Éphésiens, aux habitants d'Éphèse,
oui.
Donc on retrouve ce texte-là dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, les versets 10 à 18. Ben, il y a toute une énumération dans ces versets, il y a 8 versets, une énumération des armes du combat.
Oui.
Parce que pour se hisser dans la victoire, oui. Quelquefois, il faut combattre. Hein.
Il faut combattre, oui.
C'est comme quand on fait de l'alpinisme, on peut descendre un peu, tout à coup, 3-4 mètres plus bas.
Il y a des efforts, il faut faire, oui.
On glisse. Et il y a une chute.
Mm-hmm.
Bon, alors donc, il faut des piolets, faut des cordes.
Mm-hmm.
Bon, alors, il y a ici une liste de d'armes qui nous permettent de nous replacer dans la victoire.
Oui.
Et cette liste est vraiment précise. Il est parlé des armes de Dieu qui nous permettent de tenir ferme contre les ruses du diable.
Oui, oui.
Ça, c'est le verset 11.
Oui, hein,
et l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein, ça en fait quand même une liste.
Bien.
Donc, on a des ennemis qui veulent nous faire mal. Et puis, ensuite, Paul dira, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Mmh.
Et il donne une liste, donc, des armes. La vérité pour ceinture. C'est très imagé. Hein.
Oui.
Donc, la vérité, c'est une arme. La cuirasse de la justice. Donc, la justice,
c'est une arme. De défense.
Une arme de défense, puisqu'il y a des armes offensives, c'est-à-dire pour attaquer, et des armes pour se défendre, des armes défensives.
Protectrices.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc le zèle, c'est une arme aussi. L'enthousiasme, le zèle.
Donc le zèle en la victoire, le punch.
Oui. Ensuite, Paul dira, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi.
Oui.
Hein, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ben oui, la foi va éliminer le doute.
Ben oui.
C'est aussi simple. Prenez le casque du salut, c'est-à-dire que voilà, il faut que je croie que je vais être sauvé par le Seigneur, et même que je suis sauvé déjà, ça va plus loin. Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. N'oublions pas que c'est cette épée que Jésus avait dans le désert, et il l'a utilisée contre Satan, pour le mettre en déroute. Et cette épée, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Hein? D'où l'importance de connaître les versets de la parole.
Ah
sinon,
oui.
On ne peut pas se servir de cette épée. Voilà. Et puis, il rajoute, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc, la prière aussi est une arme. La prière d'intercession. Priez les uns pour les autres. Voilà. Alors, voilà, c'est une liste donnée par l'apôtre Paul, et qui pourront servir à nos amis auditeurs auditrices ce soir. S'ils étudient ce texte d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, eh bien, ils vont pouvoir réfléchir sur le sens de ces armes, et surtout, s'en revêtir.
C'est ça l'essentiel, il faut les utiliser, il ne faut pas les regarder.
Non, qu'elles restent poussiéreuses dans un coin retiré.
Les admirer de loin.
Oui, non, ce n'est pas des armes de collection, hein.
D'accord. Vous avez de l'humour, pasteur.
Ah ben, il faut, hein.
Il faut.
Dans la vie.
Alors, on va écouter tout de suite Jean-Marie qui est en ligne. Bonsoir, Jean-Marie.
Bonsoir, Chantal, et puis le pasteur
Philippe.
Merci de me prendre.
Bonsoir.
Effectivement, je voulais demander un peu pour savoir comment ménager tout cela, parce que le pasteur a parlé de l'esprit de victoire.
Oui.
Ça m'a fait penser au livre que j'avais lu il y a quelques dizaines d'années, de la prison à la louange.
Ah oui, de Merlin Carothers.
Voilà, de Merlin Carothers, qui est magnifique vraiment et qui
marque. Très bon livre. Oui.
c'est une proclamation de la victoire et oui. Je pensais aussi que c'est une application de Romains où Paul dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, qui fait confiance à
oui.
Dieu.
Oui. Romains 8, 28.
Alors, Romains 8, 28, c'est ça, 8, 28.
Bon, je vois que vous connaissez bien la Bible.
Je ne me rappelle plus de... voilà. Donc, moi, je voudrais, parce que dans le catholicisme d'où je suis issu, bien que je sois très, très œcuménique, on conseille plutôt, parce qu'on peut se reconnaître pécheur en allant se confesser souvent.
Oui.
Et le danger, évidemment, c'est de tout prendre comme péché et de ne voir que le péché. Et quand j'étais, moi j'ai 70 ans et quelques, j'ai été responsable national de la GEC en Afrique, et j'écrivais en 61 en disant, attention, c'est d'abord le positif qu'il faut mettre en avant. Dieu est amour, ce n'est pas de dire, voilà, j'ai fait tel péché. Faut pas regarder tout le temps le négatif. Donc je proclamais déjà cette victoire de l'amour de Dieu. Mais nous sommes aussi faibles. Si, n'est-ce pas, on ne se rappelle pas qu'on est des pécheurs pardonnés dans la victoire de Jésus, souvent, on va aller dans ces excès-là, soit de tout le temps se culpabiliser, de tout le temps penser que même une tentation devient un péché, alors que si on va aussi dans l'autre sens, à l'excès, on va penser que tout est victoire, donc on n'a pas à s'examiner, on n'a plus à méditer un peu comment nous ouvrons à l'Esprit Saint, comment nous... Voilà, on peut éviter... Ma question est que d'un excès à un autre, ça peut être parfois un peu difficile. Et surtout que notre nouveau pape François, au lendemain de son élection, il disait, attention, nous ne pouvons pas évangéliser sans la croix. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance en annonçant le Christ. Alors, voilà, donc je soumets au pasteur un peu, en écoutant ce que ça a éveillé en moi, pour pouvoir mieux comprendre tout ça.
Oui,
parce que je ne pense pas que ça se contredit, et c'est
non, du tout.
Lui qui va nous...
Voilà. Non, ça se contredit pas. D'ailleurs, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit, parce que dedans, c'est plein de bon sens, ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il nous faut trouver l'équilibre et le garder, et que trop être axé sur son péché, oh là là, aujourd'hui j'ai commis des péchés encore, oh là 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 là, et puis on s'attarde trop dessus, plus que la repentance ne le voudrait, finalement.
Oui.
Donc ça, c'est un excès qui peut nous empêcher d'avoir la victoire.
Absolument.
Et l'autre excès, et c'est formidable ce que vous avez dit. Hein.
Non seulement ça peut nous empêcher d'avoir la victoire, mais on veut pas mettre sa propre volonté, on veut que Dieu donne tout gratuitement. Enfin, il donne tout gratuitement, mais on veut de la magie, quoi. Mmh. Alors que nous avons l'effort à faire pour accueillir sa grâce, coopérer à sa grâce.
Oui, dans l'autre sens, vous parliez de l'autre extrémité, c'est ça l'autre.
Voilà, l'autre extrémité.
Ah oui, alors c'est ça, c'est vrai, c'est un évangile de facilité, sans repentance, sans souffrance, sans effort, et c'est vrai
qui évacue la croix du Christ.
Oui, et donc les gens voudraient des magiciens, finalement.
Absolument.
Hein, des faiseurs de miracles, ça existait du temps de Jésus, et d'ailleurs ils refusaient de faire des miracles dans ce cas-là.
Ouais, c'est l'adversaire.
Mais il y a en effet cet autre danger, des chrétiens qui ne se repentent pas et qui se disent, puisque nos péchés sont pardonnés, autant je veux pas dire autant en faire, non, je pense pas qu'ils disent ça, mais en tout cas ils deviennent un petit peu superficiels par rapport à la repentance. Mais c'est très juste. Moi j'ai rien à rajouter, parce que vos propos étaient excellents. Je suis très heureux que vous ayez prononcé ces paroles à l'antenne, et je suis sûr que ça en aura enrichi plusieurs.
Il y a un esprit de vérité qui rend libre, comme Jésus nous dit, et d'être ajusté à ces vérités. Hein.
Voilà,
la justice, c'est d'être
vérité,
ajusté.
L'humilité, c'est déjà d'être dans la vérité. Quoi. Si j'ai commis quelque chose, que je reconnaisse que je l'ai commis, parce que Jésus est chemin, vérité et vie. Et donc, déjà, à chaque fois que je reconnais les choses telles qu'elles se sont passées, Or, le monde d'aujourd'hui que nous vivons, malheureusement, c'est le mensonge, oui. C'est l'inexactitude, c'est la dissimulation, etc., etc., qui empêche, n'est-ce pas, que certaines choses déjà aillent mieux.
Tout à fait vrai, merci beaucoup. C'est donc
Jean-Marie.
Merci beaucoup. Merci Pasteur et merci à Chantal.
Merci à
vous, Jean-Marie.
Bonne soirée, merci.
Voilà, merci, au revoir. On entend la petite musique de fin du générique, c'est le moment de nous quitter. Un grand merci Pasteur Philippe Osné.
Merci Chantal et merci à Radio Notre-Dame qui m'invite depuis 10 ans maintenant sur cette antenne.
Et à toutes les radios chrétiennes qui retransmettent tout cela,
qui font un travail formidable
à travers toutes les ondes chrétiennes. Pour nous, ensemble, pour nous, voilà, exhorter tout le peuple de Dieu. Tout